Bonjour, bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous allons stimuler notre intelligence managériale. Je suis Johanna Kellen, opératrice de turbine à bonheur et aujourd'hui nous recevons Michel Podolak. Michel est chef d'orchestre, il a un pied dans le monde artistique, un pied dans le monde de l'entreprise. Avec lui nous allons parler écoute, coopération. Retrouvons-le tout de suite. Bon. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Eh bien, je suis très heureuse qu'on fasse cette interview ensemble, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques années et j'ai eu le privilège de venir te voir intervenir chez Monsieur Mullier.
Tout à fait.
Dans son château à Croix. Et donc, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que moi je te connais, mais les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, une petite bio express?
Alors, petite bio express.
Express prend ton temps quand même, hein, mais.
Ok. La première chose, c'est que je suis, au départ, je suis chef d'orchestre. Quand je dis je suis, c'est un métier que j'ai choisi et que j'ai exercé longuement, à la fois. Enfin, pas qu'orchestre, également chœur. Donc, j'étais formé au Conservatoire de Paris, essentiellement, et puis également dans des masterclass à l'étranger. Et j'ai été très, très marqué par un de mes maîtres aux États-Unis, sans lequel, probablement, nous ne serions pas en train de parler ici, tous les deux. Ce maître qui m'a amené des choses et qui a changé complètement mon regard sur la direction d'orchestre, probablement, qui s'appelait Charles Bruck, qui était une grande star et décédé en 1995. Donc il y a eu ce premier maître qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, vraiment. Entre autres maîtres, mais lui, il m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué.
Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué chez lui? Qu'est-ce qui t'a transmis de si important?
Eh bien, en fait, il n'était pas dans le jeu J-E, ou dans le faire semblant, ou dans le fait que de diriger un orchestre soit comme un rôle d'acteur, donc avec, tu fais des gestes pour... précis, etc., qui permettent de, on va dire, qui peuvent être extrêmement convenus. Et lui nous faisait travailler beaucoup sur, avant tout, sur le ressenti, sur l'écoute, sur notre qualité d'écoute de l'orchestre. On avait la chance d'avoir un orchestre de 60 musiciens à notre disposition, dont nous faisions partie quand nous ne dirigions pas, d'ailleurs. Et je crois que voilà, l'écoute et le fait de faire confiance à l'orchestre, de dire que l'orchestre est capable de jouer sans qu'on intervienne, c'est déjà beaucoup. Et en fait, c'était des belles claques que j'ai reçues à cette époque-là. Oui, on peut le dire. Et puis après, donc, il y a eu un homme qui a débarqué, je dis souvent un martien pour moi, parce qu'il est en fin 91, à la fin d'un de mes concerts, cet homme a débarqué en se présentant comme consultant, spécialiste en développement personnel et en management pour les entreprises. Alors tu peux imaginer tous les mots inconnus pour un musicien à cette époque. J'en avais beaucoup. Et donc, il m'a donné la chance d'essayer très rapidement. Et alors, à l'époque, j'ai commencé à faire des conférences, très, très conférences, très top-down. J'étais le sachant, j'étais apprenant. Pourtant, j'étais pas si vieux que ça. J'avais une expérience que les gens en face de moi n'avaient pas. Et puis, j'ai fait d'autres chemins. J'ai dirigé une école. J'ai travaillé au Festival international de l'Aix-en-Provence également. J'ai continué en fait l'aventure dans les entreprises, qu'elle n'a jamais arrêté. Elle n'a jamais arrêté, elle a juste évolué. Elle a évolué en parallèle finalement de l'évolution de la société, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de plus en plus de faire quelque chose qui soit vivant, interactif, et de moins en moins quelque chose qui soit dans le descendant, avec du PowerPoint, on va dire, pour la faire.
Tu as demandé ou tu as évolué comme ça?
Les deux.
D'accord.
Je pense que les deux, ça correspondait à ma propre évolution, mais en même temps, ça se conforte aujourd'hui. Les gens veulent. La première chose qu'ils me demandent en général maintenant quand ils me téléphonent dans les entreprises, c'est mais c'est interactif, hein. Bien sûr que c'est interactif, je ne peux même pas vivre sans, pour le dire. Et puis donc, il y a eu un troisième homme qui a débarqué dans ma vie en 2010, officiellement consultant. Et en fait, on s'est vu pendant 2 heures, on a parlé 5 minutes du client, 1h55 de nos rêves. Et Éric Julien, pour ne pas le nommer, Éric Julien, une aventure singulière à. Puisqu'il a eu sa vie sauvée par les Indiens Kogi dans les années, il y a 30 ans de cela. Et en fait, pour le coup, il est rentré dans cette culture des peuples racines, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans les peuples racines, et singulièrement avec les Indiens Kogi.
Peut-être dire ce que tu entends par peuple racine.
Peuple racine, les Indiens, tous ceux qui vivent encore en lien avec la terre, et non, que d'autres appelleraient les sauvages, les jeux, enfin, tu vois un peu le genre, quoi.
Oui.
Enfin, par rapport à nous, les civilisés, officiellement. Voilà. Et l'exemple des Kogi m'a extrêmement touché, extrêmement interpellé, parce qu'il m'a ouvert toute une approche que je n'avais pas du tout à cette époque-là, une approche vraiment systémique de la pensée, du fonctionnement d'un groupe, que ce soit l'orchestre ou n'importe quel groupe, finalement, d'avoir une pensée systémique et non plus une pensée pyramidale telle que je l'avais avant. D'où vraiment mon sujet qui est aujourd'hui vraiment comment on passe de ce mode pyramidal à ce mode coopératif, au mode circulaire, qui est un sujet qui me passionne parce qu'il a une résonance très forte, évidemment, sur la société actuelle et évidemment dans les organisations, dans les entreprises.
Donc ce dont on va parler là, les fondements viennent de ces peuples racines? Ou
Pas tout le
quelles
temps.
sont tes sources, quelles ont été tes sources d'inspiration et d'apprentissage?
Et bien, mes sources d'inspiration, elles sont à la fois la musique et ce que je connais de l'orchestre, ma propre expérience, à la fois aussi beaucoup de répétitions, de concerts auxquels j'ai pu assister, donc pour rester côté musique.
Oui, parce que c'est un collectif en fait, un orchestre. Donc
Exactement.
on voit toutes les interactions et ce qui s'y passe, ouais.
On les voit quand on prête attention.
Bien sûr.
Mais il y en a énormément, et précisément la technologie du 21e siècle nous permet ça. Sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos à disposition. Et moi, je fais de la veille là, en permanence sur des choses qui peuvent répondre à mes sujets, à mes préoccupations. Donc ça, c'est vrai que c'est une de mes grandes sources d'inspiration. Ma deuxième grande source d'inspiration, c'est finalement ce que je pratique en activité citoyenne, donc via le travail que je fais avec Éric Julien, et je suis administrateur de son association Tchendoukwa, qui rachète des terres pour les Indiens. Mais genre, nous avons également co-créé ensemble, avec d'autres personnes, une structure qui s'appelle Club Terre Agir Ensemble, dont le but est d'accompagner la transition sous une forme ou sous une autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, je suis également engagé en tant qu'élu municipal de ma petite commune, dans laquelle je m'occupe non pas de la voirie et de l'urbanisme, j'ai rien contre, mais c'est plutôt de m'occuper de ce que je connais un peu plus, c'est-à-dire la culture et finalement l'association, la vie du village, quoi. Et donc, tout ça sont des champs pour moi d'inspiration, de réflexion. Dans les sources aussi, il y a eu aussi tout ce que j'ai fait dans le cadre de l'école que j'ai dirigée pendant près de 10 ans à Louveciennes, où on pratiquait beaucoup l'interdisciplinarité. Et je crois, je suis comment dire, un fou du décloisonnement et de l'ouverture, parce que je pense que c'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui nous ouvre. Et ce qui nous permet d'être meilleurs nous-mêmes, c'est de nous ouvrir aux autres. Et donc, à ce qui n'est, et surtout nous autres. Les autres, c'est-à-dire ce qui n'est pas nous.
Oui, d'ailleurs, toi, tu vas autant sur le champ de l'entreprise que dans des milieux très artistiques. Je pense que tu traînes à Avignon et des endroits comme ça.
Alors, je traîne à Avignon absolument tous les étés. Et ce que j'aime bien, c'est aller voir des spectacles dans lesquels je connais personne et dans lesquels je n'ai même pas idée de la pièce que je vais voir ou le spectacle que je vais voir. Suivant mon emploi du temps, tu sais que.
Alors, ces influences, qu'est-ce qu'elles ont fait avancer dans ta réflexion sur ce sujet qui est quelles nouvelles attitudes pour coopérer au XXIe siècle?
Si tu veux, je te prends deux exemples. On va prendre l'exemple d'un grand chef d'orchestre du passé qui était Karajan, par exemple, ou pour prendre un exemple emblématique, qui est donc un chef qui règne, tout-puissant, quelqu'un qui impose sa pyramide autour de lui, même si, étonnamment, en répétition, on l'entend beaucoup parler d'écoute et de relier les gens entre eux. Sa manière d'être et sa posture égotique, surtout, sont tellement forts qu'on a une incarnation très très forte de la verticalité du passé finalement. Et c'est quand même amusant de penser que Karajan est mort en 1989, quelques mois avant la chute du mur. Et puis, de l'autre côté, on va mettre des jeunes chefs d'orchestre d'aujourd'hui, et je pense à une star comme Gustavo Dudamel, qui dit carrément qu'il crée un espace de liberté pour que les musiciens... I love to give to the musicians a place where they can be free. Voilà. J'aime créer un espace de liberté où les musiciens peuvent être libres. Et de plus en plus, j'entends ce genre de commentaires, ce genre de choses, pas directement forcément, mais où les chefs d'orchestre commencent à parler de liberté, commencent à parler de confiance, commencent à parler vraiment d'une écoute beaucoup plus contemporaine que celle qu'ils avaient auparavant. Et en fait, c'est tous ces enjeux-là qui sont en train de se mettre en place pour moi, qui relèvent de l'ordre de la valeur, et donc la valeur étant quelque chose que j'oppose, mais ça ne veut pas dire que c'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, c'est l'un et l'autre. Que j'oppose aux règles, les règles que finalement dans l'entreprise on appelle règles, qu'on appelle process, qu'on appelle organisation, et qu'on traduit par des mots. Mais moi, musicien silencieux, chef d'orchestre silencieux par essence, même les musiciens qui ne sont pas silencieux, mais qui communiquent entre eux simplement par la manière dont ils s'écoutent et par la manière dont ils se regardent, là on rentre dans des valeurs. Et dans les valeurs, je rentre effectivement l'écoute, la confiance, je rentre la bienveillance, j'y rentre l'adaptabilité, la souplesse.
Mais
C'est autant de choses.
du coup, quand on compare ces différents chefs d'orchestre qui ont des styles managériaux, on pourrait dire très différents,
Tout à fait.
on a un résultat différent. Est-ce que tu dirais que c'est une tendance de fond et que ça n'améliore pas la musique? Ça l'améliore, ça ne l'améliore pas? Quel est l'effet de ces changements de style managériaux?
Alors, pour moi, je ne sais pas si ça l'améliore à proprement parler. En tout cas, ça amène une autre vision d'abord complètement de la musique. Et surtout, ça améliore, et là, pour le coup, ça change considérablement ce que les musiciens vivent dans un orchestre. Ils ne sont plus au service d'un chef d'orchestre ou d'une œuvre, ils sont au service d'une œuvre commune réalisée par le chef d'orchestre et eux, dans laquelle chacun a une importance. Et la notion, quand on rentre dans des notions de confiance et d'écoute, de partage, tout ça, tu peux avoir, et j'en dispose d'un certain nombre de témoignages de musiciens qui te disent à quel point ils sont plus épanouis, à quel point ils sont plus heureux de jouer. Et là, ça devient intéressant quand on considère tous les jeunes, tous les X, les Y, les Z qui arrivent sur le marché du travail et qui ne veulent quoi? Qui veulent s'éclater dans ce qu'ils font. Et sinon, ils ne restent pas. Ils ne restent pas parce que si on s'ennuie, s'ils s'ennuient dans l'entreprise, même si c'est intéressant, ils n'y resteront pas. Ils veulent
Mais ça veut
s'éclater.
dire que tu sors de la logique de but, d'objectif, de réussite.
Complètement. Complètement. Non seulement je sors, mais je vais plus, pour le coup, m'intéresser beaucoup plus au comment que au quoi. Tu vois, ça revient un peu à ça. Et le comment étant précisément quelles sont ces valeurs qui sont en place. Alors, entendons-nous bien, quand je parle de valeurs, ce n'est pas des valeurs édictées par la DRH, enfin quand je dis pas enfin, la direction des ressources humaines ou la direction de l'entreprise en général. Ce sont pas des valeurs, c'est pas ces valeurs-là, parce que là, il y a une confusion entre la valeur et la règle. Quand un comité de direction édicte des valeurs, ce ne sont plus des valeurs, ce sont des règles, et donc derrière, il n'y a pas forcément appropriation. Quand je parle de valeurs, ce sont des valeurs incarnées, ce sont des valeurs vécues.
Mais j'arrive pas complètement à voir. Donc, l'entreprise aujourd'hui, elle reste focalisée sur. Elle a un but qui est de faire du profit. En quoi ce changement de paradigme, en quoi ce changement de vision et d'approche, en se déplaçant du quoi vers le comment, va répondre à leurs objectifs?
Eh bien, alors, on peut dire deux choses. D'abord, enfin, plusieurs choses. La première chose, c'est que la performance n'est pas moindre, elle est plutôt meilleure.
Ah.
De toute façon, elle est de toute façon plutôt meilleure. En tout cas, elle n'est pas moindre. Elle n'est pas moindre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on considère purement en termes de résultats, si les gens sont heureux de travailler, ils sont moins malades, ils sont moins sujets au burn-out, ils sont moins ce genre de choses qui coûtent excessivement cher à l'entreprise et à la sécu, entre parenthèses. Et troisième chose, il fidélise une population parce que cette population va être avoir moins envie aller voir ce qui se passe dans une autre entreprise. Or, là, pareil, les temps de recrutement, tout ça, sont quand même des temps extrêmement coûteux pour l'entreprise. C'est une énergie dépensée considérable pour ça, pour quelqu'un dont on ignore tout a priori. Et donc, c'est au moins tout cela qui se joue. Oui.
Donc, qu'est-ce que tu mettrais dans ces nouvelles attitudes à adopter? Cette vision que tu as, comment on s'y rend?
Alors, ben pour moi, elle passe par un mot essentiel qui va pratiquement être le ce qui va pratiquement générer créer la enfin créer la possibilité des autres. C'est le mot de l'écoute. Dans nos cultures occidentales, on est habitué à donner, on nous apprend à donner, on est même récompensé quand on donne bien. On a des bonnes notes. Pour ceux qui y croient, on va au paradis. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Et j'ai tendance à penser qu'au contraire, c'est plus on écoute qu'on sera juste soi-même. Et ça, c'est l'expérience artistique me l'apprend et je pratique le théâtre également. Et en théâtre, c'est pareil. C'est pas, si tu dis je t'aime à quelqu'un, si ça n'a rien à voir avec le sujet du moment, ça sert à rien. C'est parce que l'autre personne va t'envoyer quelque chose que tu vas avoir envie de lui dire que tu l'aimes. Je dis ça ou un autre exemple. C'est-à-dire que c'est ce qu'on entend qui nous rend juste. Et ça, c'est vrai que ça va un peu à l'opposé de ce qu'on nous apprend. Et donc c'est un vrai changement de pensée qui nous oblige à remettre en question ce que nous nos pratiques.
Donc qu'est-ce que tu mets dans écoute? Parce que donc ce serait par exemple là de façon pratique, il faudrait que je me mette dans une position d'écoute dans toutes les sphères de ma vie, dans l'entreprise, dans parce qu'on me demande quand même d'agir en entreprise. Donc où est-ce que j'utilise cette position d'écoute et surtout qu'est-ce que l'écoute? Parce que je suppose qu'il y a le fait de ronger son frein et le fait de réellement écouter quelqu'un,
Ouais.
sont deux choses différentes.
Mais j'aurais envie de te donner une citation de Pierre Boulez, qui était quand même pas n'importe quel chef d'orchestre, et un homme qui, malgré ses 90 ans, dans sa dernière interview à Classica, a dit quelque chose de tout à fait intéressant. Il dit, diriger ne veut pas dire seulement proposer, mais aussi entendre ce que l'orchestre propose et mettre cette proposition au service de l'œuvre. Changer de clarinettiste vous oblige à adapter continuellement votre vision du mandarin merveilleux de Bartok, par exemple. À condition qu'il soit bon, le but du jeu n'est pas de convaincre ce clarinettiste que votre vision est plus légitime que la sienne, mais de rendre légitime sa vision dans la totalité de l'œuvre. Le chef d'orchestre est capable, doit pouvoir être capable de s'effacer totalement, sauf sur un point, sa vision. Le fait qu'il reste le gardien de la vision à tout moment. Qu'il soit en posture haute, traditionnelle, parce que c'est nécessaire, ou une posture où il va laisser complètement faire l'orchestre parce qu'il sait que l'orchestre sait faire, il reste le gardien. Et si ça ne rentre pas dans ce qu'il veut, alors c'est à lui de corriger, c'est son travail. Et les musiciens le respectent pour ça. Si les musiciens ne savent pas où ils vont, ils n'ont pas d'estime pour le chef.
Est-ce que je pourrais résumer ça en disant que il est plus dans une position de service du groupe que de dictate, je ne sais pas comment dire,
Alors.
ou du sachant, comme tu disais, celui qui sait où l'on doit aller.
Je vais t'enlever le mot service du groupe parce que je crois que surtout quand tu parles de service du groupe, ça veut dire que ça le met à l'extérieur. Je crois surtout que le chef moderne est vraiment dans le groupe. Il n'est qu'un élément du groupe, avec dont la fonction est de relier les autres autour d'une vision. Donc relier, vision, écouter, c'est essentiel. Mais il fait partie du groupe.
Est-ce qu'il y a un message sur cette question que tu aurais aimé faire passer dont nous n'avons pas parlé?
Non, parce que je crois que j'ai l'essentiel. Parce que quand je parle, moi, d'écoute, derrière, quand les gens se sentent écoutés, alors ils commencent à se sentir en confiance. Donc, on va libérer la confiance. Ils sentent que tu n'as pas tout le pouvoir. Donc, ils acceptent. Donc, ils peuvent éventuellement te prendre à défaut. Et ils savent que ce n'est pas grave si tu te trompes. Mais ça leur donne le droit de se tromper. Donc, ça les déstresse beaucoup. Je crois que vraiment tout part. On pourrait dire au commencement était l'écoute, quoi. Tu vois?
Fabuleuse conclusion.
Mais oui, mais regarde comment les chercheurs aujourd'hui le savent et l'entreprise aussi, ça se réfléchit sur sur l'approche du vivant dans le management. Quand on regarde, la nature nous propose plein de solutions déjà. Alors pourquoi on ne regarde pas la nature? Mais c'est pour quand on dit. Et là, je parle d'une écoute pour le coup très très large. C'est pas seulement l'écoute avec les oreilles, c'est l'écoute globale. Le vivant est au cœur du management, c'est évident.
Bah, ce sera le sujet d'un nouveau podcast parce que en effet, bah, c'est le biomimétisme ou des choses comme ça, s'inspirer de la nature pour nos modes d'organisation ou même pour la fabrication d'objets inspirés de la nature.
Exactement. Mais tu peux même rajouter, un corps sain en bonne santé est un corps où les cellules se parlent, où elles communiquent. Et un corps et une cellule cancéreuse est une cellule qui s'isole des autres. Donc notre rôle, c'est d'être en bonne santé, de faire en sorte, nous, chefs d'orchestre, que les cellules se parlent, que ça échange, que ça soit fluide.
Est-ce que tu es prêt, Michel, pour mon questionnaire?
Ah, ben, je suis
Tu
toujours
n'as
prêt.
pas le choix, en fait.
Bon, ben, alors, écoute.
Alors, c'est les mêmes questions sur tous les podcasts. Pour l'instant, elles évolueront peut-être un jour. Mais pour l'instant, la première question, elle est sur peut-être ce qu'on regarde comme des échecs et qui sont souvent porteurs de leçons et de perles. Pour progresser dans la vie, alors j'aurais aimé savoir, est-ce que tu as une histoire qui viendrait de ta vie personnelle ou professionnelle, d'une erreur ou de ce qui aurait pu être vu comme un échec et qui t'a fait grandir?
Alors, en fait, on met longtemps à comprendre les choses, hein, donc il en faut plusieurs, des fois, on s'en prend plusieurs fois dans le même genre. Et je crois que pendant longtemps, mon erreur, ça a été de ne pas faire confiance à ce que j'étais capable de, à mon intuition, et capable de vivre moi-même à l'intérieur de moi-même, et de chercher rationnellement les solutions, alors que j'avais les solutions qui étaient devant mes yeux, simplement parce qu'elles étaient. Il suffisait juste de se connecter aux solutions. Alors, ça, vous allez me dire, c'est un petit peu abstrait quand je dis ça comme ça. Mais derrière, pourquoi on ne va pas faire confiance à ce qui se présente? Ben parce que c'est la question de la posture égotique, là encore, qui revient. Et je crois que pour parler d'une, peut-être la pire erreur, mais j'aime pas le mot erreur, si tu permets.
Oui, mais c'est pour
Comme
ça que je.
je ne sais plus qui,
Mais
je ne
si
sais
tu peux me proposer un autre mot,
pas. Je
je
ne sais pas,
prends.
mais je ne sais plus, c'est pas Confucius qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Oui, voilà. Mais cette question, elle est vraiment dans cet état d'esprit-là.
Voilà, et
Après,
pour.
voilà, c'est. Si tu as un autre mot que erreur
Écoute, voilà,
ou
non, mais voilà.
échec.
Donc, alors, ben, peut-être, on va dire, ça serait le dernier spectacle que j'ai monté où j'ai été victime, mais je ne m'en suis pas aperçu sur le moment, bien entendu, c'est après. Victime de mon ego. J'ai eu la chance d'avoir une équipe artistique merveilleuse. Apparemment, toutes les données étaient rassemblées. Et il y avait dans l'équipe quelqu'un d'extrêmement connu, dont je tairai le nom ici. Quelqu'un d'extrêmement connu qui. J'ai été victime de mon ego et de ma. Peut-être encore, malgré. J'avais quoi? J'avais 50 ans à ce moment-là. Malgré ce moment-là, j'ai été victime d'une soif de reconnaissance que je crois qu'on a tous envie à un moment. On a tous envie d'être connu. Finalement, ce spectacle, qui aurait pu être un spectacle magnifique, a été, je dirais, pas planté, mais un petit peu quand même. Parce que cette personne qui était dans le groupe a amené des solutions qui n'étaient pas les bonnes, on va dire. Et je me suis enfermé là-dedans, au lieu de changer de personne, au lieu de changer de mode de pensée, je suis resté coincé en me disant, mais non, mais ma reconnaissance, c'est quelqu'un de connu, et je vais, voilà. Et c'était, voilà. Et bon, je l'ai vu après, mais ça m'a coûté extrêmement cher à la fois personnellement, et puis au niveau humain, ça a été un peu compliqué. Et au niveau financier, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais bon, c'est la vie, quoi. Mais je pense
Et
que c'est
donc,
la vie.
qu'est-ce que t'en as tiré comme apprentissage?
Ah, toujours avoir un regard hélicoptère sur son ego aussi. Je crois. Je crois, j'aurais envie de dire ça, tu vois.
Donc maintenant, tu es plus conscient de quand tu es dans une quête de reconnaissance?
C'est surtout que je suis surtout beaucoup moins dans une quête de reconnaissance.
Ah,
Donc
d'accord.
j'arrête de penser à ce genre de choses et je fais.
Ok.
Je fais. Ça plaît, ça plaît pas. C'est comme ça. On me prend comme je suis. Mais je fais.
Merci pour ce partage d'expérience. La deuxième question, c'est est-ce que dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu as découvert ou tu as utilisé une technique ou un outil qui t'a vraiment servi?
Pas plus que ça, si ce n'est. Si ce n'est. Bon, je vais me répéter d'écoute, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est que tout ce qui m'a fait toujours avancer, c'est quand même ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu et se mettre, sortir de mes zones de confort, ça oui. Ça, je pense que c'est ce qui m'a fait avancer plus.
Donc
Sortir.
l'action.
Sortir de mes zones de confort. Tu sais, tu connais cette phrase de Paulo Coelho qui dit quelque chose à propos de. Si vous considérez que l'aventure est dangereuse, et si je vous recommande la routine, elle est mortelle. Tu connais?
Oui, je l'ai déjà lu, oui.
Oui, ben voilà. Mais je trouve qu'elle est exactement ça. Dès lors qu'on commence à sortir de ses zones de confort, alors on arrive à avancer, faire des choses personnellement, professionnellement. Il se passe des choses. Voilà. Après, peut-être quelque chose qui m'a fait beaucoup avancer quand même, c'est le travail en intelligence collective, avec des méthodes d'intelligence collective très professionnelles, très structurées, depuis que j'ai rencontré justement Éric Julien en 2010. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé parce que ça fait travailler. Ça fait travailler vraiment à l'intérieur de soi et son rapport aux autres.
Et donc tu conseillerais d'aller voir Éric Julien. Éric Julien transmet ses outils ou pas?
Oh, il n'est pas le seul.
Mais est-ce que tu qui est-ce que tu conseillerais pour se former?
Éric a coécrit un livre avec 7 autres personnes, enfin 6 autres personnes, dont Christine Marsan, Jérôme Lavance, j'oublie l'autre.
Thomas Emmanuel Gérard.
Voilà, tu connais ce livre peut-être?
Oh oui, je connais plusieurs personnes qui sont co-auteurs, oui.
Mais voilà, donc je pense qu'il y a plein de choses à apprendre dedans. Mais encore une fois, on peut mettre tous les mots qu'on veut, c'est ce qu'on vit qui est important.
D'accord.
Il faut les vivre. Ça sert à rien les bouquins ne servent à rien s'ils sont pas incarnés derrière. Donc il faut expérimenter les choses.
J'applaudis, ça j'en suis persuadée. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager? Je pense que
On a déjà
je
répondu.
connais ta réponse. On n'a parlé que de ça.
Mais oui.
C'est l'écoute.
Oui, mais ouais.
Tu en rajouterais une autre?
Non, 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 c'est l'écoute. C'est l'écoute. Basiquement, c'est. Et oser. Oser.
Oser.
Oser la confiance, oui.
Oser la confiance.
Oser l'écoute, oser la confiance, oui.
Très bien. Quel livre conseillerais-tu à la lecture? Un livre qui, pareil, qui à ton avis est bourré d'enseignements?
Y a un livre là qui me revient que j'ai lu il y a quelques années, qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, de Manfred Herigel. Parce que ben c'est un peu le sujet aussi dont on parle, c'est-à-dire que c'est créer des conditions pour que quelque chose se produise. Et le tir à l'arc traditionnel japonais, on ne t'apprend pas à viser une cible, on t'apprend à lâcher une flèche. J'ai pratiqué cet art pendant plusieurs années, outre le fait que physiquement ça fait beaucoup de bien, parce que c'est très très équilibré. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un art qui... où vraiment l'objectif, le but, c'est toi. Et donc plus tu vas travailler à lâcher tes peurs, en pratiquant par exemple le tir à l'arc, plus meilleur tu seras derrière autour de toi, puisque tu auras moins peur. Donc tu feras moins peur aux autres, forcément. Et donc le livre raconte l'histoire de cet homme qui s'appelait Manfred Herigel, un Allemand. C'est un tout petit livre, hein, ça se lit très facilement, qui raconte comment il est parti au Japon voir un grand maître et toute sa formation. C'est un livre un peu culte. Un peu culte. Voilà, peut-être s'il y avait un livre à
Bah,
recommander, tu vois, c'est celui-là.
déjà rien que cette phrase sur
Le lâcher.
ce n'est pas atteindre la cible, mais lâcher la flèche, c'est incroyable.
En fait, il dit exactement, quelque chose tire en toi. Voilà, c'est ça. Il faut que quelque chose tire en toi. C'est-à-dire que, et il le compare par exemple, au flocon de neige posé sur une feuille, qui à un moment, ben, la feuille pliée, les flocons tombent. Il n'y a pas de décision. C'est juste comme ça. Et c'est juste.
C'est vraiment un autre état d'esprit, notamment les pays d'Asie de l'Est, vraiment. Je vais finir avec cette question qui est, est-ce qu'il y a une citation? Alors, tu n'as pas arrêté de faire des citations, donc je ne sais pas s'il va t'en rester dans ta besace, mais quelle citation pourrait définir ton action?
Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.
Bien sûr. Magnifique. On va clôturer cet entretien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Michel? Où est-ce que, si les gens s'intéressent à ce que tu fais, comment ils peuvent te retrouver?
Eh bien, ils ont le meilleur moyen, c'est mon site internet.
Qui
Donc
s'appelle?
www.mpodolac.com, mpodolak.com, et s'ils veulent vraiment suivre mon actualité, eh bien ils s'inscrivent à la newsletter que j'ai commencé à envoyer et que je vais maintenant envoyer un peu régulièrement, qui s'exprime sous trois aspects: mon actu, quelque chose que j'ai appelé résonance, tiens, pour reprendre encore,
Tiens, c'est marrant.
vous voyez, comme par hasard, résonance, qui est donc un article sur quelque chose, un sujet. Le dernier sujet que j'ai publié s'appelait, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans la page actuelle de mon site, je l'ai appelé Réflexion du miroir. Parce que la notion de miroir pour un chef d'orchestre, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Et puis, troisième point qu'il y a dans cette newsletter, je vais y arriver, coup de projecteur sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une action, sur. Voilà.
Bon, bah, je vais m'inscrire moi. Tu fais
Voilà,
que je
donc.
note. En
Absolument.
tout cas, je mettrai tous les détails en illustration, en tout cas dans les commentaires du podcast et sur le blog Moodstep. Et ça a été un plaisir de discuter avec toi, Michel.
Plaisir partagé.
Et moi qui ai eu l'occasion de participer à plusieurs de tes interventions, c'est vraiment étonnant ce que tu provoques dans le public. Par juste l'expérimentation et aussi en touchant les croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes et notamment en te reliant tout simplement à ce fait tout simple qui est de chanter. et les idées qu'on peut avoir sur le fait qu'on chante faux ou pas faux.
Absolument.
Donc tu nous fais revisiter tout ça et pour ça je te dis un grand merci.
Un
Et je te dis
plaisir.
un merci pour d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et je te souhaite une excellente journée,
Eh bien,
comme
merci
à
beaucoup,
tous
Jeanne.
les auditeurs.
Merci beaucoup. Au
Au
revoir.
revoir. Et si vous avez apprécié cette conversation avec Michel, vous pouvez retrouver plein d'autres épisodes sur moodstep.com ou sur iTunes. Abonnez-vous, mettez des petites étoiles, commentez, partagez. Et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle émission. Bonne journée!